Radio Okapi. Parité et famille. Bonjour à tous. Parité et famille de ce jour s'intéresse à la légalisation de l'avortement médicalisé ou pas, une question qui était au centre des débats dernièrement au Parlement argentin. Le Sénat argentin a d'ailleurs rejeté la motion sur la légalisation de l'avortement. Et ici à Kinshasa, l'Association des femmes juristes du Congo a organisé le 16 août dernier une journée d'échange sur la problématique de la légalisation de l'avortement. L'objectif de ces échanges était de porter à la connaissance des Congolais en général et des juristes en particulier qu'au-delà de la loi pénale congolaise, il existe le protocole de Maputo qui soutient l'avortement médicalisé. Que dit la loi congolaise à ce sujet? Faut-il légaliser l'avortement médicalisé ou pas? Vous allez au cours de ce magazine suivre les avis des juristes, avocats et médecins et aussi des participants aux échanges du 16 août dernier. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans Parité et Famille, votre magazine qui s'intéresse aux questions liées au genre et aussi à la famille. Je vous propose d'abord de suivre les résumés du protocole de Maputo et c'est avec Tina Salama.
Le protocole de Maputo, ou protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, a été adopté en 2003 par la deuxième session ordinaire de la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine à Maputo, au Mozambique. Ce protocole énonce un certain nombre de droits humains, comme l'alimentation, la santé, l'éducation, la dignité et la paix. Il s'attache également à certaines inégalités entre les hommes et les femmes, condamne la discrimination à l'encontre des femmes et statue sur l'héritage, la succession et les droits de veuve. Ce protocole de Maputo veut établir une légalisation de l'avortement médicalisé en son article 14 qui appelle au droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. Cet article invite donc les États à assurer le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent donc le droit d'exercer un contrôle sur leur fécondité, le droit de décider de leur maternité, du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances, mais aussi le libre choix des méthodes de contraception, le droit de se protéger et d'être protégé contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-SIDA, le droit d'être informé de leur état de santé et de l'état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d'infection sexuellement transmissible, y compris le VIH-SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues. Pour ce qui est de l'éducation sur la planification familiale, les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d'information, d'éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural. Fournir aussi aux femmes des services pré- et post-natal et nutritionnels pendant la grossesse et la période d'allaitement, améliorer les services existants, protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus. Enfin, le protocole de Maputo, formulé avec l'assistance de la Fédération internationale du planning familial, demande explicitement que toutes les méthodes de contraception, y incluent celles qui sont abortives, comme la pilule, soient fournies par les gouvernements. Le traité exige la permission de tuer non seulement les enfants à naître conçus par un viol ou l'inceste, mais aussi s'il peut favoriser la santé mentale de la mère.
Merci Tina Salama. Alors, qu'apporte concrètement le protocole de Maputo? Suivez à ces sujets les explications de André Kibambe, avocat au barreau de Kinshasa.
Ce n'est pas que le protocole est venu dépénaliser l'avortement. Le protocole est venu plutôt donner quelques assouplissements par rapport à une certaine évolution et de certaines réalités observées dans la société, notamment les femmes qui ont été victimes des agressions sexuelles et qui, des suites de cela, ont eu des enfants et cela a impacté très négativement leur vie.
Et quelle différence vous faites entre avortement médicalisé et avortement criminel?
L'avortement criminel, c'est celui par lequel la personne, sans aucune raison, veut interrompre une grossesse, veut expulser le fœtus ou l'embryon. C'est un avortement qui est fondé sur des raisons de méchanceté. Mais par contre, l'avortement médicalisé, c'est cet avortement qui est fait à raison de certaines circonstances liées à la santé de la femme ou du fœtus. Alors, pour l'intérêt de l'un ou de l'autre, les circonstances font qu'on ne peut pas laisser cette grossesse évoluer, il faut l'interrompre. Voilà donc la différence.
Et la FEJICO va arriver à cet avortement-là médicalisé?
La FEJICO, je ne sais pas si elle veut arriver à cet avortement médicalisé, mais je note seulement que la FEJICO a voulu partager cette information avec les publics, avec les juristes, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur cette nouvelle donne juridique qui est maintenant dans notre droit.
Et cette question d'avortement est d'actualité aujourd'hui et ça fait débat en Europe. Vous l'avez suivi tout dernièrement en Argentine. Le Sénat argentin a même rejeté la motion sur la légalisation de cet avortement. Peut-on dire que l'avortement est légal ou bien illégal?
À certaines exceptions, il est légal lorsque il est médicalisé. Mais lorsqu'il ne l'est pas, il est illégal. Il faut noter ceci, monsieur le journaliste, c'est que...
Mais ce qui est médicalisé n'est pas autorisé par nos lois, parce que nos lois ne reconnaissent pas l'avortement.
La loi reconnaît justement cela. C'est ce que je disais dans mon propos, que quand vous lisez la loi, sur le plan de l'exégèse, vous trouvez que la loi n'a pas prévu quelques assouplissements. Mais la jurisprudence...
La loi même ne reconnaît pas l'avortement.
La loi ne reconnaît pas l'avortement, mais la jurisprudence,
la doctrine.
La loi sacralise la vie, mais la jurisprudence, comme la doctrine, ont bien explicité la pensée du législateur en disant que lorsqu'il est question de la vie de la mère porteuse ou du fœtus, on peut autoriser, on peut donc procéder à l'avortement.
Ça, c'est le protocole de Maputo ou bien notre constitution?
Non, notre constitution, la constitution d'abord ne régente pas le problème d'avortement, c'est la loi pénale.
Mais, le code pénal congolais.
Le code pénal n'a pas parlé de ça. Quand vous lisez les articles 165 et 166, ce sont des articles un peu crus, passez-moi l'expression, mais c'est, comme je disais, la jurisprudence, c'est-à-dire le juge dans l'interprétation de la loi qui a trouvé que lorsqu'il y a des raisons légitimes à pouvoir interrompre la grossesse, on peut le faire.
Ça s'est fait déjà ici chez nous, oui, à travers
sûr,
nos juridictions.
Bien sûr, oui.
On a déjà une telle jurisprudence.
Oui, oui, Anna.
En citer même deux ou trois.
Ah non, mais en fait, je n'ai pas ça personnellement en tête maintenant, mais il y en a, je pourrais vous les fournir après.
Radio Okapi. Pour ou contre l'avortement, Jeff Ngoy a posé cette question à Pélagie Ebeka, présidente de la FEJUCO, Association de femmes juristes du Congo. On l'écoute.
Pour ou contre l'avortement, vous me demandez, vous me posez la question en tant que Pélagie Ebeka, madame ou Pélagie, avocate.
Dans vos multiples casquettes, êtes-vous pour ou contre?
Non, je dirais que ça dépend. Je vais vous dire. Je suis suffisamment âgée, donc je ne peux plus tomber enceinte. Mais si jamais il m'était arrivé de tomber enceinte, parce que nous parlons de Maputo, à la suite d'un viol, et que Maputo autorise qu'une victime de viol qui tombe enceinte puisse demander et obtenir un avortement médicalisé. Mais moi, personnellement, je vous dis en toute honnêteté, je ne sais pas si j'étais dans ce cas-là, si j'allais oser demander un avortement. Donc c'est pour vous dire que ce n'est même pas une question de perception personnelle, c'est une question de texte, c'est une question de loi.
Mais nos lois n'autorisent pas l'avortement.
Non, le code pénal n'autorise pas l'avortement. L'avortement est et reste un acte incriminé par le code pénal, reste une infraction, sauf l'avortement thérapeutique qui est autorisé par le code de déontologie médicale. Mais seulement, depuis que la RDC a ratifié le protocole de Maputo, et surtout depuis que la RDC a publié le protocole de Maputo au journal officiel, et donc les dispositions du protocole de Maputo font partie intégrante de l'ordonnancement juridique interne. Donc ça signifie que autant le code pénal interdit l'avortement, criminalise l'avortement parce que c'est sévèrement puni, autant toujours dans le cadre juridique de la RDC, autant le protocole de Maputo autorise que la femme qui a été violée ou qui a été victime d'un inceste ou dont la grossesse met en danger sa santé physique et mentale, etc., puisse solliciter l'avortement. Donc ça signifie que sur le plan des principes, l'avortement reste une infraction. Mais seulement, de cette infraction-là, maintenant, les lois ont retiré des exceptions. C'est-à-dire, lorsque la santé de la mère est en danger, lorsque la femme a été violée et lorsque la femme a été victime d'un inceste. Voilà. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle en droit des causes justificatives. Mais l'avortement est et reste une infraction dans notre droit.
Revenons à votre thématique de la légalisation de l'avortement. Que répondriez-vous à cette thématique qui est interrogative?
Non, le thème, comme j'ai expliqué tout à l'heure à un des participants, le thème c'était, écoutez, c'est comme les musiciens, hein, quand ils intitulent son album, ils cherchent un titre pour susciter la curiosité des gens. Non, le thème d'aujourd'hui c'était juste pour susciter la curiosité des techniciens de droit, des juristes que nous sommes, parce que c'est une question d'actualité, il fallait qu'on se mette ensemble pour échanger par rapport à cette question d'actualité qu'est la problématique de l'avortement médicalisé autorisé par le protocole de Maputo dans des cas spécifiquement limitativement énumérés. Et donc c'était quelque chose de... Allez, on voulait un peu provoquer. C'était un titre provocateur et vous voyez qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Donc c'était juste pour susciter le débat. Mais en fait, l'avortement, il reste une infraction, sauf pour les causes, les situations pour lesquelles Maputo autorise que les femmes demandent, à la demande s'il vous plaît, et obtiennent un avortement médicalisé.
Donc vous plaidez pour l'harmonisation des textes, nos textes ici qui doivent s'adapter au protocole de Maputo qui a été ratifié par la RDC.
Oui, hein, de toute façon, vous avez suivi. Hein, cette recommandation-là est sortie de la bouche de plusieurs participants parce que je sais que vous savez qu'actuellement, il y a une loi qui est en discussion au Parlement, la loi qu'on appelle communément la loi cadre sur la santé et qui a des aspects concernant les droits sexuels et reproductifs. Et donc, ce serait vraiment une opportunité que de prendre déjà en compte les dispositions du protocole de Maputo, qui est déjà le protocole qui est déjà publié au journal officiel, pour les intégrer dans la loi, parce que vous avez suivi, comme nous tous, que en tout cas les participants ont dénoncé cette situation un peu de manque d'harmonie dans nos différents. Il y a des contradictions dans les nombreuses lois que nous avons, et c'est vrai, vous avez raison, il est grand temps qu'on pense vraiment sérieusement à l'harmonisation de nos textes.
Parité et famille. Pour ou contre l'avortement médicalisé, une des participantes à ces échanges s'est aussi exprimée sur cette question.
Je suis entre les deux. Si je suis pour, parce que je trouve que le protocole de Maputo envisage le bien-être de la femme. Et lorsque je dis que je suis contre, parce que ça va à l'encontre de notre culture, de la culture africaine, parce que ça ne sera pas bien accueilli du fait que la femme est autorisée à avorter. Parce que s'il y a de limites, oui, on peut se dire dans tel cas, la femme peut se faire avorter. Mais lorsqu'il n'y a pas de limites, c'est comme si on autoriser le meurtre, et ce qui n'est pas bon, même à l'égard de la loi aussi, de notre culture.
Même quand la vie de la femme se trouve en danger.
Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque son visage, le bien-être de la femme, lorsqu'on trouve que c'est une grossesse qui peut créer de problèmes à la santé de la femme, là, parce que la femme aussi a une vie à vivre. C'est vrai qu'elle porte la vie, mais au-delà de tout, c'est elle qui donne la vie. Donc on doit conserver, on doit protéger la vie de la femme.
Sacrifier celle de l'enfant.
Mais on ne peut pas sacrifier les deux en même temps.
Il faut les protéger les deux.
On doit protéger la personne qu'on est en train de voir. Parce que l'enfant est à l'intérieur, dans le ventre. On ne voit pas l'enfant. On sait que l'enfant est là, mais on ne voit pas l'enfant. Mais la personne que nous sommes en train de voir, c'est la femme. C'est elle qui donne la vie.
Radio Okapi. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bel et bien sur Radio Capi. Parité et famille se poursuit. Nous parlons aujourd'hui de la légalisation ou pas de l'avortement médicalisé. Dans quel cas peut-on procéder à un avortement? On écoute cette fois-ci le point de vue d'un docteur. Il s'appelle Luc Keza et il est médecin à la maternité de Kitambo.
Il y a des cas où on peut procéder à un avortement thérapeutique. C'est-à-dire quand la maman qui porte la grossesse se retrouve dans une maladie qui est incompatible avec une grossesse, soit quand vous avez des cas de malformation non compatibles avec la vie chez le fœtus, à ce moment-là, on peut être amené à procéder à un avortement thérapeutique ou eugénique. À tout moment, mais ce sont des cas qui nous arrivent rarement.
Sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion, le mercredi à 9h15.
Marie-Josée Mujinga fait partie du service de la documentation de la justice. Elle est également présidente de l'Association des femmes magistrates. Que retenir des statistiques en ce qui concerne des cas d'avortement portés devant les cours et tribunaux? Y a-t-il des cas répertoriés? Elle nous en parle au micro de Jeff Ngoy.
Bon, nous ne pouvons pas dénombrer les cas, hein, mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que les cas d'avortement devant les cours et tribunaux sont rares. Ce sont des infractions qui sont rarement portée devant les cours et tribunaux, dans la mesure où souvent, ça peut être une femme qui est allée se faire avorter ou une jeune fille, et elle-même, elle est partie voir le médecin pour que le médecin applique l'avortement, d'où cette fille ne peut pas elle-même dénoncer, même si l'avortement est mal tourné. Mais souvent, ce sont les parents, les tierces personnes, soit le parent de la fille qui s'est fait avorter, soit en cas d'adultère ou d'infidélité, vous voyez un mari qui va porter plainte contre le médecin. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que l'avortement est punissable non seulement par rapport aux pratiquants, mais aussi par rapport à la personne qui s'est fait avorter. Alors, si la personne, souvent, le cas, c'est quoi? C'est que la femme qui s'est fait avorter, et si ça tourne mal, elle peut aussi être sanctionnée par la loi. De même que le pratiquant ou le personnel médical qui a appliqué l'avortement. Ce qui fait que souvent, les gens préfèrent ne pas dénoncer. Mais les cas sont rares, ils sont très rares. Voilà ce que nous pouvons dire.
Et si un tel cas est porté devant le juge, quel peut être son comportement sur l'interprétation de la loi? Quand on dit qu'il faut sauver la vie de la mère qui est en danger, par exemple.
Oui, l'avortement, c'est une infraction, hein. Si le juge est saisi d'un cas d'avortement, nous nous retrouvons ici devant un problème de preuve où nous devons absolument recourir à une expertise médicale. Parce que pour savoir si quelqu'un s'est fait avorter, il faut recourir à une expertise médicale. À ce moment-là, le juge est obligé de recourir à l'expertise médicale. Et s'il est établi qu'il y a eu effectivement avortement, là, le juge est obligé de sanctionner. Mais nous devons aussi prendre en considération le cas d'avortement thérapeutique. Au cas où le médecin considère que la grossesse peut entraîner la perturbation dans la santé de la mère. À ce moment-là, le code pénal permet à ce que la personne puisse se faire avorter
pour préserver sa santé. C'est quel article?
Ici, nous ne pouvons même pas parler de la loi. Nous pouvons peut-être invoquer la déontologie médicale. Qui permet la déontologie médicale, on ne parle pas de la loi pénale, parce que la loi pénale sanctionne. Mais ici, la déontologie médicale permet à ce que le médecin puisse pratiquer un avortement pour des questions thérapeutiques.
Et le juge peut laisser passer?
Le juge peut accorder et peut prendre ça comme des circonstances atténuantes. Oui, pour dire, écoutez, nous ne pouvons pas condamner, étant donné que nous avons la preuve du médecin qui certifie que l'avortement a été pratiqué à la suite de constat qui a été fait par rapport au risque de la santé de la maman qui pouvait mourir et tout ça. Mais nous venons de voir avec le protocole de Maputo qui permet certains cas d'avortement mais à condition que ce soit des avortements qui sont faits, ce qu'on appelle avortements médicalisés, sont faits dans de bonnes conditions. Le protocole de Maputo le permet, notamment dans les cas de viol, dans les cas d'inceste, dans des cas
sexuels.
Voilà, tout ça. Le protocole de Maputo autorise à la femme qui se retrouve dans ces conditions-là, qui est grosse, autorise à cette femme de se faire avorter. Mais ici, chez nous, nous constatons que nous devons prendre les cas par cas. Parce que ici, le protocole de Maputo n'oblige pas les femmes à avorter. Mais le médecin peut appliquer l'avortement avec le consentement de la femme qui a été victime de viol et qui ne veut pas avoir cet enfant, la femme qui a été agressée, la femme qui s'est retrouvée par exemple dans un cas d'inceste et qui veut se débarrasser de cet enfant. Alors le protocole de Maputo l'autorise, mais à condition que la femme soit consentante, parce que cette femme-là peut accepter garder cette grossesse. Voilà. Donc le protocole de Maputo n'a rien ajouté de spécial, sauf que il précise de cas où le médecin, dans les cas où on peut avorter sans pour autant être poursuivi par la loi. Voilà ce que nous pouvons dire.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com.
À quoi va aboutir les échanges sur cette question qui a réuni les hommes de la loi les 16 août dernier? Faut-il harmoniser les textes congolais sur l'avortement médicalisé avec le protocole de Maputo? On écoute une fois de plus André Kibambe, qui, je le rappelle, est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe.
C'est un besoin de la population. Hein. Moi, je pense que la FEJICO a lancé quelque chose de très intéressant. Vous avez vu vous-même dans la salle l'intérêt qu'a suscité ce sujet. Et si donc ailleurs, on estime que ils peuvent organiser la même session, elles peuvent bien organiser ça et ce serait très intéressant pour la population.
Ce que vous appelez avortement médicalisé, c'est un cas de force majeure, c'est ça?
Non, ce n'est pas le cas de force majeure.
C'est quoi le cas de force majeure?
Le cas de force majeure, c'est souvent le cas non prévu par la personne et la loi, mais c'est arrivé, on doit supporter cela. Mais dans une certaine acception...
Ça doit être puni.
Non, ce n'est pas puni. Ça ne sera pas puni. Parce que le cas de force majeure, lorsque, par exemple, la personne subitement, la santé dégringole, périclite sérieusement, et que la personne ne sait plus supporter la grossesse, et on peut procéder à l'avortement.
Alors que la loi ne l'autorise pas.
C'est cela, mais ce sont des assouplissements de la loi.
Est-ce qu'il y a possibilité d'harmoniser nos textes pour les adapter
le
au
texte,
protocole?
Je pense que le texte est déjà harmonieux. Le texte est déjà harmonieux parce que je vous ai dit que dans notre jurisprudence, on avait déjà admis d'autres cas où il y a avortement, mais ce n'est pas punissable. Le protocole de Maputo est venu seulement élargir les cas en tenant compte de certaines réalités donc de la société.
Ainsi prend fin Parité et Famille, consacrée aujourd'hui à la problématique de la légalisation ou pas de l'avortement médicalisé. Merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Jeff Ngoy et à Tina Salama qui ont participé à la production de ce magazine mis en onde par Bob Landou. Je suis Thérèse Kankoun-Tamboué. Au revoir et à la prochaine.